Bonjour Marie-Georges Buffet.
Bonjour.
Le président de la République va donc s'exprimer cet après-midi devant le Parlement réuni en congrès à Versailles. Y serez-vous pour l'écouter ?
Notre groupe GDA a décidé d'y aller pour pouvoir s'exprimer et contrer justement la politique du président Macron.
Donc vous y serez ?
Je vais y aller.
Pas de gaieté de cœur.
Non, pas de gaieté de cœur, parce que comme cela vient d'être dit, on y va pour écouter. Il va nous faire ça tous les ans ? Utiliser le Congrès pour un président de la République dans des moments difficiles pour le pays, dans des moments dramatiques pour le pays, ça peut se comprendre. Mais utiliser le Congrès pour donner une sorte de feuille de route aux députés de sa majorité tous les mois de juillet, l'Assemblée n'est pas là pour écouter le président, l'Assemblée est là pour agir. Nous sommes des élus du peuple et nous sommes là pour agir au niveau législatif.
Aux États-Unis, par exemple, le président de la République s'exprime tous les ans. C'est le discours sur l'état de l'Union. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire le parallèle et admettre qu'une fois par an, le président de la République vient s'exprimer devant la représentation
nationale?
Mais
nous sommes pas aux États-Unis. Nous avons des institutions dans notre pays qui donnent au Parlement, qui donnent à l'Assemblée nationale un rôle spécifique.
Alors, juste avant, donc vous y serez, on a bien compris, mais juste avant, les élus communistes vont très symboliquement aller prêter un nouveau serment du jeu de paume devant la salle du jeu de paume. Vous allez vous engager à quoi ?
Nous engager d'abord à agir contre la réforme des institutions prévue par le président Macron. Et puis surtout, nous allons travailler à une 6e République. À travers toute une série d'amendements que nous avons beaucoup travaillé ces dernières semaines, nous allons donner à voir d'une alternative pour une République plus démocratique, plus citoyenne.
À quel discours du président de la République vous vous attendez ? Qu'est-ce que vous auriez envie d'entendre ? Puisqu'au moins, puisque vous y allez, on peut imaginer que vous avez envie d'entendre certaines choses plus que d'autres.
Peut-être qu'il pourrait nous parler du plan pauvreté qu'il a repoussé.
Oui, c'est pas sûr alors du coup.
Mais c'est pas sûr. Je ne sais pas, parce que j'apprends ce matin qu'il ne va pas du tout nous parler de la réforme institutionnelle. Donc, alors qu'on pensait qu'on était convoqué pour écouter quelque chose sur la réforme institutionnelle. Donc je ne sais pas, peut-être va-t-il nous parler des futurs cadeaux qu'il va faire aux grandes entreprises ou aux personnes les plus riches de ce pays. J'ai été très choquée du fait qu'on repousse les annonces sur le plan pauvreté, parce que étant élue de la Seine-Saint-Denis, je peux vous dire que la souffrance sociale est extrêmement importante. Il y a eu beaucoup d'expulsions locatives qui ont été effectuées. Le 115 ne peut plus répondre. Vous savez que le 115 ne prend plus que des familles avec des enfants de moins de 3 ans parce qu'ils ne peuvent plus répondre. Donc des gens dorment dans la rue, dans les voitures, etc. Et puis le pouvoir d'achat, on sent que ça pèse énormément sur les plus bas salaires.
Le 115, c'est le numéro d'urgence pour les personnes qui sont démunies, qui sont à la rue en fait. Vous avez évoqué la réforme des institutions, la réforme constitutionnelle défendue par Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle vous paraît, comme le disent un certain nombre d'élus, dirigée contre le Parlement, construite pour affaiblir les parlementaires ?
Oui, je pense que le président Macron veut passer par-dessus l'Assemblée nationale, par-dessus le Parlement, en limitant le nombre des élus, des députés. J'attire l'attention d'ailleurs de l'opinion publique sur le fait que moins il y aura de députés, moins il y aura de possibilités pour les citoyens et les citoyennes de rencontrer un élu, de se faire entendre, de faire en sorte que l'élu porte ses revendications, ses exigences au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis, ils veulent limiter le droit d'amendement, limiter la possibilité pour les députés d'améliorer la loi, d'enrichir la loi à partir des besoins des citoyens et des citoyennes. Vous savez, nous sommes capables à l'Assemblée nationale de construire des lois. Je pense à la loi contre toutes les violences faites aux femmes, qui a été complètement construite par l'Assemblée nationale, sans que le gouvernement ne s'en mêle. Et il y a d'autres lois du même genre. Et donc, ils veulent limiter le pouvoir de l'Assemblée nationale.
Vous savez que parmi les mesures de cette réforme, celles qui concernent la réduction du nombre d'élus ou la réduction du nombre de mandats, sont des mesures très soutenues par l'opinion publique. Vous avez à l'instant évoqué l'opinion publique. Comment vous l'expliquez ? Il y a une espèce de réflexe antiparlementaire primaire que l'on vient flatter avec cette réforme ?
Oui, bon, c'est vrai que certains comportements d'un nombre très limité de mes collègues a pu laisser penser à l'opinion publique que les députés s'en mettaient plein les poches, ils ne travaillaient pas, ils faisaient pas leur boulot, etc. Moi, je peux témoigner qu'une majorité de députés, quelles que soient les bancs sur lesquels ils siègent, sont présents à l'Assemblée nationale, travaillent dans les commissions, dans les missions d'enquête, travaillent bien sûr dans l'hémicycle, et qu'ils sont à l'écoute de leur population et qu'ils portent des idées. Et je pense que s'il y a moins de députés, moi je le vois dans ma circonscription, il faut que je réponde à toute une série de demandes des familles, mais aussi des salariés dans les entreprises, des services publics qu'on voit disparaître les uns après les autres, eh bien je ne pourrais pas couvrir le territoire immense qu'aura peut-être mon successeur si on agrandit encore les circonscriptions.
Emmanuel Macron a fait passer la réforme du Code du travail, il y a quelques jours celle de la SNCF. Est-ce qu'il n'a pas fait la preuve que l'opposition à ces réformes ne l'empêche pas d'aller jusqu'au bout, ou peut-être au fond aussi que l'opposition à ces réformes n'est pas suffisamment forte?
La mobilisation, c'est vrai, est difficile. Malgré la belle lutte des cheminots à la SNCF, on voit bien que les manifestations ne sont pas aussi fortes, aussi massives qu'on le voudrait. Moi, je vois plusieurs raisons. Peut-être la pédagogie qui a été faite par les précédents gouvernements, de Sarkozy en passant par Hollande, en expliquant sans arrêt à la population qu'on ne peut pas faire autrement, qu'il n'y a pas les moyens pour faire autrement, qu'il faut absolument limiter les dépenses publiques, etc. etc. Et puis peut-être le manque de perspective à gauche. C'est difficile d'entrer dans la lutte, c'est difficile de faire grève. Quand vous avez l'impression qu'une majorité est omniprésente et qu'à côté, il n'y a pas une opposition qui se rassemble sur des perspectives communes et qui crée une dynamique, qui crée une perspective. Donc je pense que tant qu'il n'y aura pas une vraie perspective à gauche, ça sera difficile d'avoir une grande mobilisation sociale.
Emmanuel Macron a annoncé une réunion à l'Élysée pour le 17 juillet avec l'ensemble des partenaires sociaux. Ce sera une conférence sociale. Est-ce que ça pourrait être le début du virage social du président de la République?
Je ne crois absolument pas à ce virage social. Ni droite ni gauche, c'est une blague. Depuis que Macron est en place, il mène une politique de droite. Et il a même, je dirais, avec une vigueur supérieure à ce qu'on a connu dans des périodes précédentes. Quand on voit l'accumulation des réformes faites ou annoncées, on s'aperçoit qu'il veut très vite démanteler tout ce qui faisait, les acquis sociaux, les acquis démocratiques, tout ce qui faisait que le salarié, le citoyen, la citoyenne, était quelque part protégé, garanti dans ses droits.
Il a les coudées franches aujourd'hui pour conduire de nouvelles réformes, celle des retraites par exemple notamment?
Non, il n'a pas les coudées franches parce que moi j'espère qu'il y aura des mobilisations qui vont gonfler petit à petit. Et la question des retraites est très sensible. Par exemple, la question de la pension de réversion pour les femmes, je peux vous dire que les femmes sont extrêmement mobilisées sur cette question parce que déjà elles souffrent d'inégalités tout le long de leur carrière professionnelle. Il y a encore 26% d'écart entre les salaires pour une femme et les hommes aujourd'hui dans notre pays en 2018. Et donc leurs pensions, elles y tiennent. Et les pensions de réversion, elles y tiennent.
Marie-Georges Buffet, difficile quand même de ne pas vous dire un petit mot de la demi-finale de Coupe du Monde. Il y en a deux, hein, mais il y en a une qui nous intéresse peut-être plus que l'autre. C'est évidemment France-Belgique. Demain soir, vous avez été ministre de la Jeunesse et des Sports. Vous intéressez vraiment au football et sincèrement. Comment vous sentez ce match?
Plutôt bien, parce que depuis les deux derniers matchs, on sent qu'il y a vraiment une équipe qui s'est formée. D'ailleurs, quand les interviews se succèdent avec les différents joueurs de l'équipe de France, ils parlent toujours de l'équipe. Et je trouve que c'est un climat qui s'est modifié par rapport au premier match des poules. Et je pense que ça leur donne une qualité de jeu intéressante. Alors, je ne sous-estime pas nos amis belges, bien sûr.
Oui, qui ont fait une très belle prestation.
Une très belle prestation.
Mais enfin, vous voyez la France en finale, donc.
Oui, j'espère. Ouais. Ça me rajeunira de 20 ans.
Ça nous rajeunira tous de 20 ans. L'union fait la force, donc, dans le sport comme en politique, sans doute.
Oui, tout à fait.
Merci, Marie-Georges Buffet. Bonne journée.
Bonne journée.